Et on revient sur cette information du tireur retranché de Dordogne, condamné 4 fois pour des faits de violence conjugale. Il était soumis au port du bracelet électronique. Pour en parler ce matin, Pierre-Marie Seff, qui est délégué général de l'Institut pour la Justice. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Pierre-Marie Seff. Alors donc, ce forçonné qui est toujours, ce matin, introuvable par les forces de gendarmerie, nous y retournerons bien sûr dans les journaux du grand matin de Sud Radio. Il y a quand même 2-3 interrogations. Quel est le système du bracelet électronique en France, Pierre-Marie Seff, puisque donc il était porteur de ce bracelet électronique et il l'a enlevé pour pouvoir aller voir son ex-compagne qui était avec un nouveau compagnon, et c'est là où ont commencé les nouveaux actes de violence.
Alors le bracelet électronique, ça se porte soit en l'attente d'un procès, soit dans le cadre de ce qu'on appelle l'aménagement de la peine. Donc vous le savez peut-être, en France, une grande majorité des peines sont aménagées. On ne va pas en prison même quand on y est condamné. C'est depuis 1997, ce dispositif existe et il permet de passer une détention à domicile, comme on dit, ce qui dans les termes d'ailleurs a quelque chose d'assez absurde. Ouais. Mais la détention à domicile, voilà, c'est ce qui existe. Alors il y a plusieurs sortes de bracelets électroniques. Tout d'abord les bracelets radio, qui sont ceux utilisés dans la quasi-totalité des cas en France, qui sont tout simplement, on a un bracelet le plus souvent à la cheville, et puis ce qu'on appelle un beacon, qui est un récepteur et qui fait que quand on sort d'une certaine zone, le domicile, le bracelet émet un signal qui va être transmis à une centrale, et éventuellement il peut biper aussi le bracelet. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on contrôle. Mais donc c'est assez basique et c'est le système le plus utilisé en France. On a ensuite évidemment d'autres systèmes qui pourraient être très intéressants d'utiliser. Le bracelet mobile par exemple, qui lui est un traceur GPS, qui permettrait de savoir, une fois qu'on sort de la zone, de savoir qu'est-ce que fait concrètement la personne qui est sortie de la zone.
Oui, mais sauf si vous l'enlevez, on ne peut plus vous tracer, quoi.
Ah mais absolument. Non, c'est exactement ça. Donc c'est extrêmement basique, c'est assez sommaire.
Ouais.
Donc c'est pour ça que, heureusement d'ailleurs, c'est utilisé pour les délinquants dont on estime qu'ils sont les moins dangereux.
Oui, parce que il peut y avoir du coup un manque de fiabilité dans le suivi judiciaire de ces personnes qui sont alors soit en attente de procès, soit qui sont sous une surveillance en dehors de l'emprisonnement, de la détention, quoi.
Oui, absolument. Ah oui, il y a clairement des failles. Je vais vous en citer une qui date de la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a un homme qui a tué sa compagne à Hayange, donc dans l'Est.
Oui.
Il avait retiré son bracelet électronique quelques minutes avant, et puis personne ne l'embêtait. Et puis il faut dire qu'une fois que le bracelet bip, c'est un appel de la centrale. C'est absolument pas les flics avec les gyrophares qui arrivent tout de suite et qui vont coffrer la personne
qui a violé. Oui.
Vous qui êtes un spécialiste de toutes ces questions, est-ce qu'il y a des exemples à l'étranger qu'il faudrait suivre qui permettraient d'éviter ces défaillances dans le suivi du condamné avec le port du bracelet électronique?
Oui, alors déjà, il faut savoir que par rapport à l'étranger, la France a un immense problème de place de prison. Nous manquons de place de prison. Et la raison première pour laquelle nous avons recours à ces bracelets électroniques, c'est parce que nous n'avons pas les moyens matériels de mettre ces gens en prison. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Maintenant, le bracelet électronique peut complètement avoir un intérêt. À mon avis, plutôt qu'à la place de la peine, il aurait plutôt de l'intérêt après la peine, donc pour une espèce de période de sûreté.
Oui, c'est ça. Ouais.
Après, maintenant qu'on accepte le principe du bracelet électronique, il y a plusieurs sortes de bracelets. Donc le bracelet radio, comme je vous disais, qui est tout simple, qui dit simplement si la personne est dans une zone ou non. Il y a le bracelet mobile qui est un traceur GPS. Et il y a la dernière génération de bracelets qui est ce qu'on appelle les bracelets analytiques, qui permettent là d'avoir, donc c'est avec du big data, on recoupe les données, donc voilà, ça va assez loin. On peut même avoir la température du corps. Enfin bon, ça peut aller très loin, mais on n'est pas forcé d'aller aussi loin. Et on peut simplement avoir un traceur GPS. Et là, il y a des pays comme nos voisins suisses, comme très souvent en matière pénale, ils sont en avance sur nous. Là, j'ai vu récemment les Norvégiens et les Lituaniens ont ça aussi, pour citer des exemples en Europe. Donc, c'est pas des pays du tiers-monde, c'est des pays de l'Union européenne.
Ouais. qui ont d'autres exemples de fonctionnement. Merci beaucoup, hein, Pierre Marissev, délégué général de l'Institut pour la justice, d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct sur Sud Radio. Et on vous donnera des nouvelles, hein, de cette chasse à l'homme qui est poursuit. En cours actuellement en Dordogne, tout à l'heure encore dans les journaux de 7h30 et de 8h.
Et après la réouverture des boutiques non essentielles, comme celle des vêtements il y a 10 jours, comment se passe cette reprise? Olivier Deleuze est avec nous, vice-président de la Fédération nationale de l'habillement pour la région Sud et propriétaire de ce magasin pour hommes du Cannes, dans le centre-ville de Nice.
Oui, bonjour Olivier Deleuze.
Bonjour.
Bon, visiblement, bonjour. Vous n'êtes pas seul. Hein. On entend un petit chien aussi qui frappe à la porte.
C'est hein. Il demande à sortir.
Oui. Comment s'est passée la reprise depuis 10 jours et notamment ce week-end? Cécile disait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de monde. Hein. Les gens étaient repartis faire du shopping.
Il y a un véritable engouement sur cette reprise et je crois qu'elle est très différente de celle de l'année dernière lors du premier déconfinement. Après une lassitude, je crois, un peu de découragement, finalement, tout le monde a eu très très envie de renouer avec la vraie vie et de retrouver les terrasses, les vitrines, les boutiques. Et on a senti que les clients avaient la banane, qu'ils avaient le sourire. Et ils nous avaient beaucoup manqué et on a été très heureux de les retrouver. Et manifestement, eux aussi ont été très heureux de nous retrouver.
Ouais. Olivier Deleuze, alors pour les boutiques de vêtements, est-ce qu'il y a beaucoup de stocks qu'il vous faut absolument écouler?
Fatalement, puisque finalement les stocks se sont accumulés au gré des fermetures administratives. Et puis, nous ne pouvions pas réouvrir le 19 mai avec des pulls et des manteaux. Donc il nous a fallu rentrer une collection de printemps. Alors même que nous étions fermés, et c'est une difficulté, puisque là, maintenant, on nous annonce les soldes pour le mois prochain.
Oui, c'est ça. Ces soldes qui devraient être à partir du 30 juin, c'est une bonne date ou pas?
Moi, je pense que, et c'est la position de la Fédération nationale de l'habillement, qu'il faut renouer avec le cycle naturel des saisons, et qu'il serait normal de solder l'été à la fin de l'été et l'hiver à la fin de l'hiver.
Oui.
Et de laisser les produits de saison être vendus au moment où on en a l'usage.
Oui. Comment vous avez vécu ce moment, cette traversée, Olivier Deleuze? Parce que les grandes enseignes ont les reins un petit peu plus solides. Pour vous, quand vous avez des plus petites boutiques, c'est peut-être encore plus difficile?
Je pense que on a une faculté de résilience en tant que commerçant indépendant, puisque nous sommes nos propres variables d'ajustement et que ce sont les efforts qu'on doit faire et qu'on sait faire et que nous ferons pour nous adapter à ces mutations profondes du commerce qui s'annonce. Mais je pense que ça peut être la revanche des petites boutiques et des restaurants sur Amazon et Uber, et qu'on a encore notre mot à dire dans les centres-villes.
Oui, parce que c'est ça, il y a la proximité, il y a la chaleur et la convivialité humaine, et ça, vous l'avez ressenti, il y avait ce besoin, quoi, un petit peu.
Il y avait ce besoin, au-delà du besoin de vêtements, en l'occurrence, il y a le besoin de contact, c'est la dimension humaine de nos activités, évidemment.
Oui, oui, merci beaucoup, hein, Olivier Deleuze, d'avoir été avec nous aussitôt ce matin, vice-président de la Fédération nationale de l'habillement. Et puis, pour ceux qui sont du côté de Nice, on a beaucoup d'auditeurs évidemment dans la région. C'est dans le centre-ville, hein, j'en profite pour le dire, pour vous faire un petit peu de promotion, puisque vous êtes levé tôt pour répondre aux questions de Sud Radio.
Et n'oubliez pas de sortir le chien, bien sûr.
Oui, parce que ça tarde, hein, là, évidemment.
Ça tape à la porte. Dans un instant, on reviendra sur la fin du voyage d'Emmanuel Macron en Afrique. Et ce sera l'édito politique de Thierry Garrier. À tout de suite.